On se trouve à la librairie L'Établi des mots en compagnie d'Amandine Gay. Tu es autrice, réalisatrice de documentaires, sociologue et tu te définis comme afro-féministe. Ton travail est intimement lié à ton histoire. Le point de départ, c'est ton expérience de jeune femme noire née sous X en quête d'identité. Et dans ton premier documentaire, tu offres un espace de parole à 24 femmes afro-descendantes pour questionner la difficulté d'être une femme noire en Europe. Puis dans Une histoire à soi, tu retraces la quête identitaire de 5 adultes adoptés à l'étranger.
Et aujourd'hui, tu présentes ton premier essai autobiographique, Une poupée en chocolat. Et tu écris ce livre est une trace, une archive, une pièce de puzzle que je tente de compléter grâce à l'analyse politique de ce qui m'arrive. Comment parviens-tu à te réapproprier ton histoire en posant un regard politique ?
C'est vrai que moi je considère que la création c'est un moyen effectivement de retrouver une agentivité, donc la capacité à agir sur soi et sur le monde, à remettre effectivement son récit en ordre, surtout quand on a voilà, un parcours qui est marqué ou une identité, une histoire qui est marquée par des ruptures biographiques, par des enjeux voilà, de perte, de trauma, etc. Et donc l'idée c'est de se dire, voilà, souvent quand j'essaie de décrire l'adoption rapidement à des personnes qui n'ont jamais pensé, je leur dis, bah, vous voyez, imaginez l'image du texte à trous, c'est généralement quelques phrases qui font sens, mais il manque quelques mots, et puis on vous demande de retrouver quelques mots. Pour les personnes adoptées, c'est l'inverse. Nous, en fait, on a quelques mots et on doit s'inventer des phrases. Et donc, à partir de là, je pense qu'effectivement, parce qu'il y avait beaucoup d'opacité, beaucoup de chaînons manquants, moi, voilà, j'ai développé un goût pour l'écriture, pour voilà, essayer de faire du sens, et c'est aussi pour ça que finalement, le premier livre, c'est un essai, et pas juste un récit autobiographique, puisque l'idée, c'est vraiment aussi d'essayer d'amener des clés de compréhension sociologique. Pas seulement d'ailleurs autour de l'adoption, mais effectivement un peu comme vous l'avez dit toutes les deux, autour d'enjeux plus généraux comme les questions identitaires, qu'est-ce que c'est d'être une personne noire qui grandit dans une famille blanche, les questions du faire famille, est-ce qu'on peut avoir plusieurs parents, jusqu'à combien de parents on peut avoir, etc. Est-ce que les enfants peuvent circuler plutôt qu'être la propriété exclusive de deux adultes. Donc du coup ça nous amène aussi à la question de la domination adulte. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites aux personnes adoptées parce qu'on est quand même dans une société qui se met peu à la place des enfants. On n'a pas une empathie au sens de se mettre à leur place. On est quand même dans un rapport vraiment asymétrique aux enfants. Et de façon générale, c'est un problème. Et dans l'adoption, ça a causé énormément de problèmes. Donc voilà, moi j'essaie de toujours d'être au plus proche des slogans féministes historiques, le privé, le personnel et politique, au sens de si je raconte mon histoire, c'est avant tout pour donner des clés de compréhension plus générales et plus politiques autour du faire famille, de l'adoption, etc.
Et comme tu viens de le dire, ton analyse porte aussi sur la question de l'adoption transraciale et de comment grandir sans sa culture d'origine. Ton histoire est celle d'une enfant noire adoptée dans une famille blanche. Qu'est-ce que cela change de s'affirmer dans son identité de femme noire avec une famille qui n'a pas le même vécu ?
Alors bon, je ne sais pas exactement ce que ça change, puisque n'ayant pas grandi dans une famille noire, je ne suis pas sûre aussi que ce soit facile pour les personnes noires qui ont grandi dans des familles noires de prendre la parole publiquement en France, parce que ça génère beaucoup de violence. Et moi, je sais pour certaines de mes amies racisées qui sont très visibles, il arrive que leurs parents se fassent interpeller, reçoivent des coups de téléphone, de harcèlement, etc. Donc je pense que de façon générale, et en particulier dans le contexte actuel en France, prendre la parole en tant que femme racisée dans l'espace public, en particulier sur des questions politiques, c'est effectivement exposer sa famille, c'est pas juste s'exposer soi-même. Là où c'est différent, je dirais, c'est effectivement si votre famille n'a pas fait un travail, donc si vous avez grandi dans une famille blanche, un travail d'éducation. Ce qui n'a pas été le cas dans ma famille, où je dirais que bon, il y avait déjà un certain nombre de thématiques qui étaient conscientisées avant notre arrivée ou quand on était enfant, c'est-à-dire justement, mes parents n'avaient pas besoin de nier la race, par exemple. C'était pas du tout quelque chose qui a existé dans mon expérience. Mes parents savaient qu'on était noirs, pouvaient dire qu'on était noirs, avaient déjà eux un ami noir avant que nous on arrive. Et je veux dire, là, on a été pour mon frère dans les années 70 à la campagne lyonnaise, donc c'était très rare. Et donc, du coup, il y a déjà un certain nombre de choses qui n'étaient pas taboues chez nous. Et puis, pour toutes les choses que mes parents ne savaient pas, effectivement, ils ont fait aussi un vrai apprentissage en vivant avec nous. Moi, c'est vrai que ce que je demande, c'est que l'apprentissage aujourd'hui soit fait par les parents adoptants en amont. C'est-à-dire que tout ce qui relève de la socialisation, discrimination raciale, c'est-à-dire les apprentissages implicites que font un enfant racisé au sein d'une famille racisée, où on va le sensibiliser aux enjeux du racisme, on va le préparer au fait qu'il va être victime de profilage racial si c'est un garçon, etc. Bah, tout ce travail-là, généralement, n'est pas fait dans les familles adoptantes blanches, parce qu'ils n'ont même pas conscience que certains sujets, comme le profilage racial par la police, existent. Et donc ça, ça met les enfants non blancs et noirs, dans mon cas, dans ce mon frère, en danger, ou au moins dans une construction aussi identitaire qui peut être difficile sur des choses très simples comme le soin des cheveux. Être dans un rapport compliqué à ses cheveux, à sa peau, parce que vos parents ne savent pas vous coiffer, ne savent pas qu'il faut hydrater les peaux noires différemment, etc., ça peut créer des troubles identitaires. Donc pour moi, l'enjeu, c'est vraiment ça, c'est que la charge de l'éducation sur les questions raciales ne devrait pas reposer sur les épaules des personnes adoptées, elle devrait reposer sur les épaules des institutions, des candidats à l'adoption, des parents adoptants, parce qu'on a déjà assez de choses à gérer de notre côté pour pas en plus devoir faire l'éducation de nos parents sur les questions raciales.
Tu as grandi avec le sentiment du coup que les voix des filles noires et ou adoptées étaient invisibilisées. Comment expliques-tu ce manque de repères ?
Bah parce que la société est structurée autour de rapports de pouvoir, donc en fait il y a déjà la question d'avoir une masse critique. Donc tant qu'on n'arrive pas à être un assez grand nombre de personnes noires ou adoptées adultes qui sont en mesure de s'exprimer dans l'espace public, c'est compliqué. Et puis il y a aussi vraiment des barrières à l'entrée dans le discours public. Jusqu'à l'émergence des réseaux sociaux, la possibilité d'avoir son blog, donc de rencontrer des gens en ligne, mais aussi d'aller interpeller les institutions, les médias, c'était très compliqué. Vous ne pouvez pas vous faire publier dans une maison d'édition comme ça facilement avant, enfin je veux dire, jusqu'à même il y a une dizaine d'années, 10-15 d'années, c'était impossible de faire un parcours des réseaux sociaux à une maison d'édition. Aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, c'est possible d'autoproduire son documentaire. Moi, j'ai beaucoup dit pour Ouvrir la voie. Ouvrir la voie en pellicule, le coût du film était déjà insoutenable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire un film et le sortir en salle pour un tiers du coût juste de le tourner à l'époque où c'était des films en pellicule. Donc quand je parle de barrière à l'entrée et de rapport de pouvoir, c'est ça. Les questions de classe vont informer qui peut prendre la parole dans l'espace public. Le racisme va informer qui peut prendre la parole dans l'espace public. Le sexisme aussi. Je veux dire, on a encore aujourd'hui en France des panels sur l'égalité femmes-hommes dans n'importe quel métier donné où il n'y a que des hommes qui sont invités à discuter sur le plateau télé. Donc ça, voilà. Plus on est loin de la norme, donc plus on est loin de... Même si c'est une minorité hégémonique, les hommes blancs 6-7 ne représentent pas 50% de la population, même loin de là. Mais à partir du moment où il y a une minorité hégémonique qui a le pouvoir, et donc par le pouvoir j'entends effectivement le monopole des armes, le pouvoir économique et politique, et le quasi-monopole du pouvoir politique, parce que même avec les lois sur la parité, il y a encore assez peu de femmes en politique, et surtout dans des postes de pouvoir. Donc c'est sûr que quand on se retrouve un peu au bout de la chaîne, si vous êtes une femme noire, handicapée, queer, c'est sûr que c'est pas vous qu'on va entendre. Donc les femmes noires, les femmes adoptées, les femmes noires adoptées, etc. On a eu du mal à intégrer l'espace public. On est en train maintenant, mais voilà, c'est le fruit de luttes et puis aussi parfois de changements structurels qu'on maîtrise pas, quoi. Le développement d'Internet et en particulier des réseaux sociaux, ça c'est une opportunité qui s'est présentée dans laquelle se sont effectivement engouffrés beaucoup de minoritaires.
Et justement, tu viens de parler de ton documentaire « Ouvrir la voie » et c'est ça qui est au cœur de ton travail. Tu donnes la parole aux personnes concernées pour comprendre leur vécu. Pourquoi est-ce la réalisation documentaire que tu as choisie en premier pour transmettre ces représentations ? Est-ce que tu avais le sentiment de montrer quelque chose qui t'a manqué, toi personnellement ?
Alors je dirais que le premier choix pour moi en termes de pourquoi le cinéma par exemple plus que la littérature ou les essais, c'est parce que c'est déjà aussi le médium qui moi me plaît plus. Si j'ai du temps libre, je vais d'abord regarder un film avant de prendre un livre, il faut dire la vérité. Et puis c'est aussi parce que c'est le médium le plus accessible. Vous n'avez pas besoin de savoir lire pour aller au cinéma et pour profiter d'un film. Pour profiter d'un livre, il faut savoir lire et surtout d'un essai autobiographique, un essai avec une forte dominante académique universitaire, mais c'est pas accessible à tout le monde. Donc c'est vrai que pour moi l'idée de faire des documentaires, c'est aussi de travailler sur cet enjeu de l'accessibilité à qui on veut parler, et comment est-ce qu'on fait pour aussi transmettre certains concepts, certains outils, etc. Et puis donc du coup c'est sûr que ça m'a amené aussi à me dire c'est l'occasion de mettre dans ces œuvres-là des choses dont moi j'aurais eu besoin quand j'étais plus jeune, les choses que j'aurais aimé entendre quand j'étais adolescente, etc., qui me semblent justement justement des moments un peu charnières où on cherche souvent voilà, des repères ou simplement juste des récits. C'est-à-dire pouvoir se représenter dans diverses expériences de gens qui nous ressemblent, mais de se dire, ah bah oui, je sais pas, elle est patineuse artistique, mais elle fait des films, et puis elle est institutrice, et puis elle est, je sais pas, avocate, ou elle est paysagiste. Et peut-être que juste dans le fait qu'on propose cinq femmes noires dans des récits divers et variés, qui peuvent être une fiction télé, qui peuvent être un film au cinéma, qui peuvent être un podcast, etc., ça va donner à une des jeunes filles noires qui écrit, elle a envie de devenir paysagiste ou juste l'autorisation de se rêver paysagiste ou sommelière, etc. Et donc pour moi, c'est vraiment ça aussi, c'est que travailler dans le champ de la création, de l'écriture, c'est vraiment aussi travailler sur l'enjeu de l'ouverture des possibles, du champ des possibles. Et voilà, encore une fois, plus on est minoritaire et plus dépendamment d'où vous grandissez, du milieu social dans lequel vous grandissez, etc., plus par exemple simplement les carrières dans lesquelles vous pouvez vous rêver vont être limitées. Et donc moi, ce que j'aime avec le cinéma en particulier, c'est vraiment que les images, c'est très puissant aussi. Donc donner des images comme ça qui vont permettre à des plus jeunes femmes, adoptées, noires ou autres, de se rêver autre chose que ce à quoi elles sont confrontées dans leur milieu, moi ça m'intéresse.
Et donc justement, le cinéma documentaire est la première phase de ton travail. Et là, tu présentes un essai autobiographique, Une poupée en chocolat, et tu transmets une idée, celle que l'adoption ne se réduit pas à donner une chance à un enfant, mais c'est avant tout offrir une famille à des personnes qui souhaitent devenir parents. Pourquoi c'est important de ne pas oublier ce sens ?
Parce que pendant très longtemps, encore une fois, quand l'analyse de l'adoption a été portée par les adultes et l'analyse et la présentation du phénomène, je dirais, on a justement pu faire disparaître les rapports de pouvoir qui président à l'adoption. Pour qu'une personne puisse être adoptée, il a fallu qu'une famille doive se séparer d'un enfant. Et donc du coup, encore une fois, cette expression des inégalités qui existent dans la société, on se sépare rarement d'un enfant de gaieté de cœur, donc c'est parce qu'on est trop précaire, c'est parce qu'on est dans un pays en guerre, c'est parce qu'il y a une épidémie qui touche notre communauté, etc. Bref, il y a des raisons structurelles, encore une fois systémiques, qui font que certaines familles ne sont pas en mesure de garder leurs enfants. Et c'est grâce à ces inégalités que d'autres familles, qui sont généralement infertiles, puisque jusqu'en 2012 en France, l'adoption concerne principalement les couples hétérosexuels, parfois des personnes seules, mais donc ce sont des personnes qui ne peuvent pas faire famille sans avoir accès à l'adoption. La dernière enquête de l'INED qui s'appelait « Qui sont les adoptants, qui sont les adoptés ?» et qui date de 2009, montrait que 75% des personnes qui se tournaient vers l'adoption le faisaient après avoir épuisé toutes les tentatives médicales pour soigner leur infertilité. Et donc du coup, remettre la pratique dans cette perspective-là, la réinscrire dans en fait quels étaient les besoins des adultes, c'est important parce que pendant très longtemps, il y a eu un discours autour de la gratitude dans l'adoption. L'idée, c'était qu'effectivement, on sauvait un enfant ou on permettait à un enfant d'avoir une famille, ce qui est vrai, mais dans le même temps, l'enfant permet à des adultes infertiles de faire famille eux aussi. Et donc pour moi, ça c'est très important parce qu'il ne devrait pas y avoir d'enjeu de gratitude d'ailleurs dans aucune forme de parentalité, mais certainement pas dans l'adoption. Et s'il y en a une, c'est important de rappeler que s'il y a gratitude, c'est dans les deux sens. Parce que sans personne à adopter, les candidats à l'adoption ne peuvent pas faire famille.
La question comment faire famille est centrale dans ta réflexion. Et tu milites pour repenser l'adoption. De quelle manière veux-tu amener à réfléchir sur la filiation et les droits des futurs enfants adoptés ?
Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de penser le faire famille en termes de rencontres. Et je pense que, justement, si on repense aussi le statut des enfants, c'est-à-dire des personnes à qui on peut demander leur consentement, par exemple, et de se dire qu'à partir de 5, 6, 7, 8 ans, un enfant, il peut dire s'il a envie d'être adopté, ou il peut dire s'il a envie de changer de pays ou pas, ou il peut dire plein de choses. Mais est-ce qu'on leur pose la question et est-ce qu'on va prendre leur réponse au sérieux, par exemple? Et ça, pour moi, c'est hyper important de se poser la question, encore une fois, de est-ce que la pratique est vraiment faite dans l'intérêt supérieur des personnes adoptées, ou est-ce qu'un certain nombre de choix sont faits parce que, justement, ça facilite la vie des adultes? C'est sûr que déplacer un enfant d'un pays vers un autre, ça évite aussi à des adultes de devenir eux des minorités, d'apprendre une nouvelle langue, de devoir trouver un travail dans un autre pays, etc., etc. Et donc dans cette perspective-là, on n'est pas du tout dans une réflexion autour de ce qui est bien pour l'enfant. On est dans une réflexion autour de ce qui est plus pratique pour les adultes. Et donc moi, c'est vraiment ça en fait. Repenser le faire famille dans le cadre de l'adoption, ça permet finalement de venir questionner le statut des enfants dans nos sociétés et la domination adulte. Puisque en fait, y compris dans les milieux féministes, on pense très peu la place des enfants. Et là, je veux dire, on vient de passer le 25 novembre, les journées de commémoration des violences faites contre les femmes. Mais les premières violences sexuelles, elles sont faites contre les enfants. Elles ne sont pas faites contre les femmes. Je veux dire, la première violence sexuelle dans notre pays, c'est l'inceste. C'est là que tout le monde apprend sa place, en fait. Et donc, pour moi, c'est hyper important de se dire comment est-ce que c'est possible qu'on ne soit pas en solidarité avec les enfants. Comment est-ce que c'est possible que nous, justement, y compris nous en tant que féministes, afroféministes, on se fasse passer, nous, les adultes, en premier. Alors qu'en fait, tout ce qui traverse la société en termes de violence, ça bat d'abord sur les enfants. Ce sont les enfants qui sont les premières victimes de la précarité, y compris dans le cadre des violences intrafamiliales et conjugales. Les enfants sont frappés aussi. Et donc voilà, cet enjeu-là, pour moi, il est hyper important parce que finalement, quand on commence à regarder nos manquements à nous en tant qu'adultes, ça va vraiment nous poser des questions pour toutes les familles. Dans le cadre des familles recomposées, dans le cadre du statut des mineurs non accompagnés aussi, par exemple, qui devrait être notre responsabilité, qui sont la responsabilité de l'État français. La façon dont des enfants sont traités à Calais ou dans les rues de Paris, etc., ça devrait même pas juste nous émouvoir, ça devrait nous enrager toutes et tous. C'est pas tout ça qui se passe. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment quelque chose où, en fait, je pense que de façon même générale, l'humanité va progresser à partir du moment où nous, en tant qu'adultes, on considère les enfants comme des êtres humains à part entière, comme des petites personnes qui n'ont certes pas de droits civiques, mais avec qui on peut vraiment interagir sur un pied beaucoup moins asymétrique en termes de rapport de pouvoir. Et cette réflexion, elle a à peine commencé, quoi.
Et pour finir, tu as dit « Je dois donc écrire mon histoire pour ne pas être qu'une somme de silence, de trauma et de dépossession. » Mais finalement, aujourd'hui, es-tu en paix avec ton vécu d'enfant, né sous X et adopté ?
Alors, moi, c'est vrai que j'ai pas une approche linéaire du soin ou de ce qui relève de la guérison. Et d'ailleurs, le livre, il se termine sur la question de la guérisseuse blessée, qui est donc reprendre cette perspective de Jung, où on ne fait pas justement une dichotomie entre les soignants et les soignés, mais on part du principe qu'une personne travaille à partir de ses propres failles, etc. Et donc, du coup, je dirais que annoncer qu'on est en paix, par exemple, avec son histoire, c'est comme s'il y avait effectivement un point T où du coup, en fait, tous les questionnements s'arrêtaient. Et moi, je pense que c'est pas le cas. Je veux dire, tous les êtres humains, de façon générale, se débattent avec leur histoire jusqu'à leur mort. En fait, c'est le principe. On ne sait pas pourquoi on est là. De façon générale, on essaye de faire du sens tout au long de notre vie, etc. Et donc, pour moi, c'est plutôt, moi, j'ai plutôt une perspective de créer, d'écrire. Et donc, non, moi, je pense que j'ai toujours, d'une façon ou d'une autre, travailler à partir de qui je suis. Ça va prendre différentes formes. Là, moi, j'ai vraiment des envies de fiction, donc que ce soit une comédie romantique ou passer à la BD parce que j'ai envie de travailler sur l'image plutôt, etc. Alors, je dessine pas du tout, hein, ce sera donc en collaboration avec quelqu'un, mais je veux dire, ça va jamais disparaître, ces enjeux qui m'animent, genre la question de la domination adulte, la question du faire famille, les questions raciales, etc. Ça va pas disparaître de mon travail, ça va se remodeler différemment. Et moi, ce qui m'aide à être, j'irais plutôt en équilibre, à défaut d'être en paix, c'est effectivement la création. C'est d'avoir cet endroit où moi, je peux inventer, penser le monde tel que j'aimerais qu'il soit, même si c'est pas ça qui se passe après, mais au moins, il y a un petit espace où je suis très libre. Voilà.
Merci beaucoup, Amandine Gay, de nous avoir accordé cet entretien juste avant ta rencontre à la librairie L'Établi des mots, autour de ton ouvrage Une poupée en chocolat.
Merci beaucoup.
Merci à vous.